RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et modernisée. Pour la revue suivante, comme tous les jours, nous allons présenter magazine culturel et apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'ambassadeur des Émirats Arabes Unis a déclaré les relations entre les Émirats Arabes Unis et l'Indonésie dans le principe du respect mutuel. Selon le ministre de la Défense, la diplomatie de défense fait partie de la stratégie de défense nationale. À l'occasion de la journée de lutte contre la corruption, KPK organise une conférence sur l'éradication de la corruption. L'ambassade d'Indonésie à Bruxelles maintenir l'unité malgré des choix différents. Le vice-président espère que les citoyens indonésiens en Argentine utiliseront leur droit de vote. Garuda Indonesia ouvre des liaisons aériennes Bandung-Singapour. Chermi nous présente maintenant le journal complet. L'ambassadeur des Émirats Arabes Unis en Indonésie, Muhammad Abdullah Al-Ghafi, a déclaré que les relations entre les Émirats Arabes Unis et l'Indonésie étaient fondées sur le principe de coopération de respect mutuel. Dans son discours lundi à Jakarta, lors de la célébration du 47e anniversaire des Émirats Arabes Unis, il a apprécié les relations bilatérales qui se sont bien déroulées entre les Émirats Arabes Unis et l'Indonésie. Il a également déclaré que les relations entre les deux pays se sont développées en le partenariat stratégique avec le volume croissant de commerce, d'économie et de culture. Le commerce entre les Émirats Arabes Unis et l'Indonésie ont atteint plus de 3,7 milliards de dollars américains à la fin 2017 par rapport à ceux en 2016 qui atteint 2,9 milliards de dollars américains. L'investissement des Émirats Arabes Unis en Indonésie a atteint 3 milliards de dollars américains et devrait passer de 5 jusqu'à 6 milliards de dollars américains jusqu'à 2020. À la même occasion, le ministre de Planification Agraire et Spatiale, M. Sofian Jalil, a souhaité que la coopération bilatérale entre les deux parties puisse être améliorée. Le ministre Sofian, au nom du gouvernement indonésien, se félicite du 47e anniversaire des Émirats Arabes Unis. Le ministre de la Défense, Riamizat Yakudu, a déclaré que la diplomatie de la défense faisait partie intégrante du système de défense nationale pour anticiper toutes les formes de menaces pouvant perturber l'intégrité de la NKRI. Une posture de défense nationale formidable doit être accompagnée de politiques de gouvernance de la défense nationale étant efficace et professionnelle. Cela a été déclaré par Riemirzat Riakudu, lundi à l'Université de Défense Bogor, Java Occidental. Il a souligné l'importance d'un engagement commun dans la mise en place d'une défense nationale forte. Par conséquent, les étudiants doivent continuer à étudier l'essence de la menace. Les étudiants doivent jouer un rôle important dans la dynamique de la politique internationale actuellement. Il a déclaré que la stratégie de défense nationale de l'Indonésie consistait à protéger les intérêts nationaux, notamment à protéger la nation indonésienne. Selon lui, la réalisation de la stratégie de défense nationale doit améliorer le bien-être de la société. La Commission d'éradication de la corruption, ou KPK, a organisé une série d'événements pour la Conférence nationale sur l'éradication de la corruption 2018, mardi et mercredi 4 et 5 décembre. Le porte-parole de KPK, M. Febri Diansyah, a déclaré que cet événement, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la corruption, le 9 décembre chaque année. Febri, au bureau de KPK Jakarta, a déclaré lundi que cette activité impliquait environ 57 ministères, institutions et gouvernements locaux, en outre 20 organisations de la société civile et le Centre d'études anticorruption. 16 représentants de partis politiques ont également assisté à l'événement. Febri a également déclaré que cet événement comportait un certain nombre de priorités. D'abord, il est important d'encourager les partis politiques à construire un système politique intégré. Deuxièmement, en 2019 est l'année où la souveraineté du peuple se voit accorder un espace libre pour choisir les futurs leaders. Pour que son parti estime que cet élan est nécessaire pour encourager un meilleur système d'intégrité des partis politiques. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'ambassade d'Indonésie à Bruxelles en Belgique a appelé les citoyens indonésiens en Belgique à maintenir leur unité malgré les choix politiques différents lors des élections 2019. Dara Yusilawati, première secrétaire du protocole et des affaires consulaires de l'ambassade d'Indonésie à Bruxelles, a affirmé récemment à Londres que l'ambassadeur d'Indonésie en Belgique, Yuri Getambrin, a transmis ce message lors de son discours au séminaire sur les élections à Agen en Belgique samedi. Dara a souligné qu'au moins 150 personnes comprenant des civils, des étudiants universitaires et des lycéens avaient participé à ce séminaire dans le but de mieux comprendre comment devenir un électeur intelligent et sage. L'ambassadeur Yuri Tamrin a également affirmé l'importance de la société indonésienne et de la diaspora indonésienne à l'étranger de respecter des valeurs et des réglementations locales et d'être attentif aux menaces à la sécurité en Belgique. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla espère que tous les citoyens indonésiens en Argentine qui avaient inscrit sur la liste électorale définitive utilisent bien leur droit de vote aux élections générales 2019. C'est ce qu'a affirmé Yusuf Kalla lors d'une rencontre avec des citoyens indonésiens à Buenos Aires, en Argentine, lors de sa participation au sommet du G20. Sur la base de la déclaration écrite du vice-président Yusuf Kalla reçue par Antara à Jakarta dimanche, les élections générales qui se tiendront en avril 2019 seront la mise en œuvre du parti démocratique le plus compliqué de tous les temps en Indonésie, parce que au même jour il y avait des élections pour 5 catégories. En outre, Yusuf Kalla a déclaré aux citoyens indonésiens en Argentine que la mise en œuvre d'élections générales en Indonésie avait toujours été sûre, c'est-à-dire il n'y a jamais eu affrontement grave faisant des victimes en raison des divergences d'opinion politique lors des élections régionales simultanées et aux élections législatives et présidentielles précédentes. Par conséquent, Yusuf Kalla a appelé tous les citoyens indonésiens à maintenir la condition de la nation indonésienne à partir de la campagne électorale jusqu'à la fin des élections 2019. La compagnie aérienne Garuda Indonesia a officiellement ouvert une nouvelle liaison à l'aéroport Hussein Sastra Negara à Bandung dans l'ouest de Java. Cette fois, Garuda Indonesia a officiellement ouvert un vol aller-retour Bandung-Singapour dimanche. Comme indiqué par Republika Online, Garuda Indonesia dessert 4 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi et dimanche. La directrice générale de la succursale de Garuda Indonesia à Bandung, Madame Irina Damayanti, espère que le nombre de touristes étrangers visitant la ville de Bandung augmentera. Le maire adjoint de Bandung, Yana Mulyana, a déclaré que l'ouverture de cette liaison avait eu un impact positif non seulement sur le besoin en matière de transport, mais aussi capable d'améliorer l'économie et sociale dans la ville de Bandung. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Vous écoutez toujours la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « L'impact de la réduction de la guerre commerciale sur le renforcement de rupiah ». Le ministre de la Coordination des Affaires économiques, M. Darmina Sution, a déclaré que rupiah avait une chance de continuer à se renforcer, surtout après la pression de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a commencé à se calmer. Cela a été déclaré par Darmin dans le CEO Networking 2018 à Jakarta lundi 3 décembre. En comparaison avec les autres pays en développement, selon Darmin, rupiah a connu le renforcement le plus rapide. Même le renforcement de rupiah est meilleur que celui des pays de l'ASEAN et d'autres pays tels que le Brésil, lundi l'Afrique du Sud et la Turquie. À l'ouverture du commerce cette semaine, rupiah s'est apprécié par rapport au dollar américain. Le taux de change de rupiah ayant atteint une valeur de 15 000 rupiah par un dollar américain, cette semaine a atteint une valeur supérieure de 14,270 rupiah par dollar américain. La réunion positive du président américain Donald Trump et du président chinois Xi Jinping est devenue l'un des déclencheurs. Comme rapporté par CNBC dimanche, les deux dirigeants ont convenu qu'un tarif supplémentaire ne serait imposé après le 1er janvier 2019. C'est ce qui est censé faire disparaître la guerre commerciale. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a commencé lorsque les États-Unis ont menacé d'appliquer des droits de douane sur les produits importés, y compris la Chine. Le 6 juillet 2018, le gouvernement américain dirigé par Donald Trump avait imposé un droit de douane sur les importations de marchandises chinoises s'élevant à 34 milliards de dollars américains. Donald Trump avait alors menacé de multiplier les conflits commerciaux avec le projet d'appliquer des droits pouvant atteindre 450 milliards de dollars américains sur les produits chinois si la Chine réagissait contre la politique américaine. Ce sentiment avait exercé une pression sur le marché financier, notamment les actions, les devises et le commerce mondial. La diminution de la tension de la guerre commerciale, outre d'avoir le potentiel de renforcement des taux de change de rupiah par rapport au dollar américain, devrait également relancer la mise en œuvre du programme de politique économique du gouvernement indonésien visant à apporter des améliorations telles que l'amélioration de la qualité des infrastructures, des ressources humaines et la redistribution des terres. Avant le renforcement de la valeur de rupiah par rapport au dollar américain, le système économique indonésien étant devenu très stable, les prix des produits de base peuvent être atteints par tous. Espérons que l'augmentation de la valeur de rupiah sera un bon signe pour le progrès de l'Indonésie. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir à tous, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Le 4 décembre 1945, la journée artillerie adoptée par l'armée indonésienne pour commémorer la naissance du corps d'artillerie de l'armée de terre indonésienne. L'histoire de la lutte indonésienne après la proclamation de l'indépendance le 17 août 1945 a été marquée par la naissance du corps de la sécurité du peuple, ou BKR, de l'armée de sécurité du peuple, ou TKR, de l'armée de la sécurité du peuple et de l'armée de la République d'Indonésie, TRI, et ensuite devient TNI. Le 4 décembre 1945, le général du corps d'armée Urip Sumoharjo inaugurait l'établissement du quartier général de l'artillerie chargé de favoriser les unités artillerie indonésiennes, dont le premier commandant était le lieutenant-colonel R.M. Pratikno Suryo Sumarno. Le quartier général de l'artillerie fait partie du service désarmement du quartier général de l'armée basé à Yogyakarta. L'inauguration a coïncidé avec la date de naissance de l'artillerie internationale le 4 décembre 1945. Le 4 décembre, cet anniversaire est devenu anniversaire du corps artillerie de l'armée indonésienne qui a ensuite été désigné comme l'anniversaire des forces armées de terre. Le 4 décembre 1974, l'avion Martin Air transportant 182 pèlerins indonésiens et 11 membres d'équipage a écrasé à l'atterrissage à l'aéroport international de Bandaranaike, Sri Lanka. Tous les passagers ont été tués. Le crash a tué tous les passagers, 182 pèlerins indonésiens vers Lamek et 9 membres d'équipage. Le 4 décembre 1976, la déclaration du mouvement Aceh Libre a été déclarée par Hassan Tiro sur la colline de Halimun, Pidi Aceh. GAM est le mouvement pour un Aceh Libre, en Indonésie, Gerakan Aceh Merdeka. Il est l'organisation séparatiste qui lutte pour l'indépendance de la province indonésienne d'Aceh à la pointe nord de l'île de Sumatra. Le conflit entre le GAM et le gouvernement indonésien a duré de 1976 jusqu'à 2005 et a fait environ 15 000 personnes qui sont mortes. La période de paix avec le gouvernement a commencé avec quelques discussions et négociations. La dernière discussion tenue le 17 juillet 2005 à Helsinki. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir à tous, merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Indonésiaku ou Mon Indonésie, intitulée « Les valeurs de Pancasila doivent continuer à être introduites au peuple indonésien ». L'engagement des citoyens indonésiens à l'étranger à préserver les valeurs de Pancasila continue d'être encouragé. Les valeurs de Pancasila sont les lignes directrices, les philosophies et les conceptions de la vie de la nation et de l'État. C'est ce qu'a déclaré Heri Utomo, le président du réseau de la diaspora indonésienne, lors de la semaine de Pancasila à Melbourne, l'Australie, 28 novembre. Heri Utomo, cité par Tempo.com, a déclaré que les valeurs de Pancasila doivent être enseignées à la diaspora et aux générations futures en tant que forme d'amour pour la patrie de l'Indonésie. La semaine de Pancasila et l'atelier, le dialogue et le séminaire du 28 novembre au 1er décembre 2018. Les membres du comité directeur du Conseil de développement de l'idéologie de Pancasila, M. Mahmoud MD, ont également assisté à l'événement. Mahmoud a déclaré que l'histoire de Pancasila et l'importance des valeurs de Pancasila en tant que bastion contre le radicalisme. Selon lui, il y a des efforts pour éradiquer l'idéologie de Pancasila, de sorte qu'on doit faire la socialisation et la formation non seulement au niveau national, mais aussi aux citoyens indonésiens à l'étranger. Le membre de la Chambre des représentants indonésiens, M. Daryatmo Mardianto, estime la communauté rurale plus applique les valeurs contenues dans Pancasila. Les valeurs en question sont la coopération mutuelle, la solidarité et la tolérance. Les gens, surtout ceux qui vivent dans des villages, sont identiques à la coopération mutuelle. Cela a été dit par Daryatmo Mardianto récemment à Kudus, Java Central. Bahar Buasan, le membre du Conseil des représentants régionaux de Bangka Belitung, invite tous les Indonésiens, notamment Bangka Belitung, à renforcer les valeurs de Pancasila dans leur environnement. Selon lui, les valeurs de Pancasila doivent être enseignées principalement par la famille. Selon lui, cité par postbelitung.co, la famille joue le rôle important dans l'application des valeurs de Pancasila dans les activités. Pancasila doit être réenseignée en commençant par la famille, afin que la communauté puisse la comprendre et pratiquer dans la vie quotidienne. Selon Bahar Buasan, le renforcement des valeurs de Pancasila dans la vie sociale en ce moment est très important parce que les défis nationaux à l'avenir sont plus grands. Le renforcement des valeurs de Pancasila pourrait protéger de diverses influences négatives internes et externes. Chers amis, c'était Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. L'ambassadeur des Émirats Arabes Unis en Indonésie, Muhammad Abdullah Al-Ghafi, a déclaré que les relations entre les Émirats Arabes Unis et l'Indonésie étaient fondées sur le principe de coopération de respect mutuel. Dans son discours lundi à Jakarta, lors de la célébration du 47e anniversaire des Émirats Arabes Unis, il a apprécié les relations bilatérales qui se sont bien déroulées entre les Émirats Arabes Unis et l'Indonésie. Il a également déclaré que les relations entre les deux pays se sont développées en le partenariat stratégique avec le volume croissant de commerce, d'économie et de culture. Le commerce entre les Émirats Arabes Unis et l'Indonésie ont atteint plus de 3,7 milliards de dollars américains à la fin 2017 par rapport à ceux en 2016 qui ont atteint 2,9 milliards de dollars américains. L'investissement des Émirats Arabes Unis en Indonésie a atteint 3 milliards de dollars américains et devrait passer de 5 jusqu'à 6 milliards de dollars américains jusqu'à 2020. À la même occasion, le ministre de Planification Agraire et Spatiale, M. Sofian Jalil, a souhaité que la coopération bilatérale entre les deux parties puisse être améliorée. Le ministre Sofian, au nom du gouvernement indonésien, se félicite du 47e anniversaire des Émirats Arabes Unis. Le ministre de la Défense, Ria Mizat Yakudu, a déclaré que la diplomatie de la défense faisait partie intégrante du système de défense nationale pour anticiper toutes les formes de menaces pouvant perturber l'intégrité de la NKRI. Une posture de défense nationale formidable doit être accompagnée de politiques de gouvernance de la défense nationale étant efficace et professionnelle. Cela a été déclaré par Ria Mizat Yakudu lundi à l'Université de défense Bogor, Java Occidental. Il a souligné l'importance d'un engagement commun dans la mise en place d'une défense nationale forte. Par conséquent, les étudiants doivent continuer à étudier l'essence de la menace. Les étudiants doivent jouer un rôle important dans la dynamique de la politique internationale actuellement. Il a déclaré que la stratégie de défense nationale de l'Indonésie consistait à protéger les intérêts nationaux, notamment à protéger la nation indonésienne. Selon lui, la réalisation de la stratégie de défense nationale doit améliorer le bien-être de la société. La Commission d'éradication de la corruption au KPK a organisé une série d'événements pour la Conférence nationale sur l'éradication de la corruption 2018, mardi et mercredi 4 et 5 décembre. Le porte-parole de KPK, M. Febri Diansyah, a déclaré que cet événement, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la corruption, le 9 décembre chaque année. Febri, au bureau de KPK Jakarta, a déclaré lundi que cette activité impliquait environ 57 ministères, institutions et gouvernements locaux, en outre 20 organisations de la société civile et le Centre d'études anticorruption. 16 représentants de partis politiques ont également assisté à l'événement. Febri a également déclaré que cet événement comportait un certain nombre de priorités. D'abord, il est important d'encourager les partis politiques à construire un système politique intégré. Deuxièmement, en 2019 est l'année où la souveraineté du peuple se voit accorder un espace libre pour choisir les futurs leaders, pour que son parti estime que cet élan est nécessaire pour encourager un meilleur système d'intégrité des partis politiques. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'ambassade d'Indonésie à Bruxelles en Belgique a appelé les citoyens indonésiens en Belgique à maintenir leur unité malgré les choix politiques différents lors des élections 2019. Dara Yusilawati, première secrétaire du protocole et des affaires consulaires de l'ambassade d'Indonésie à Bruxelles, a affirmé récemment à Londres que l'ambassadeur d'Indonésie en Belgique, Yuri Getambrin, a transmis ce message lors de son discours au séminaire sur les élections à Agen en Belgique samedi. Dara a souligné qu'au moins 150 personnes, comprenant des civils, des étudiants universitaires et des lycéens, avaient participé à ce séminaire dans le but de mieux comprendre comment devenir un électeur intelligent et sage. L'ambassadeur Yuri Tamrin a également affirmé l'importance de la société indonésienne et de la diaspora indonésienne à l'étranger, de respecter des valeurs et des réglementations locales et d'être attentif aux menaces à la sécurité en Belgique. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla espère que tous les citoyens indonésiens en Argentine qui avaient inscrit sur la liste électorale définitive utilisent bien leur droit de vote aux élections générales 2019. C'est ce qu'a affirmé Yusuf Kalla lors d'une rencontre avec des citoyens indonésiens à Buenos Aires, en Argentine, lors de sa participation au sommet du G20. Sur la base de la déclaration écrite du vice-président Yusuf Kalla reçue par Antara à Jakarta dimanche, les élections générales qui se tiendront en avril 2019 seront la mise en œuvre du parti démocratique le plus compliqué de tous les temps en Indonésie, parce que au même jour, il y avait des élections pour 5 catégories. En outre, Yusuf Kalla a déclaré aux citoyens indonésiens en Argentine que la mise en œuvre d'élections générales en Indonésie avait toujours été sûre, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu affrontement grave faisant des victimes en raison des divergences d'opinion politique lors des élections régionales simultanées et aux élections législatives et présidentielles précédentes. Par conséquent, Yusuf Kalla a appelé tous les citoyens indonésiens à maintenir la condition de la nation indonésienne à partir de la campagne électorale jusqu'à la fin des élections 2019. La compagnie aérienne Garuda Indonesia a officiellement ouvert une nouvelle liaison à l'aéroport Hussein Sastra Negara à Bandung dans l'ouest de Java. Cette fois, Garuda Indonesia a officiellement ouvert un vol aller-retour Bandung-Singapour dimanche. Comme indiqué par Republika Online, Garuda Indonesia dessert 4 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi et dimanche. La directrice générale de la succursale de Garuda Indonesia à Bandung, Madame Irina Damayanti espère que le nombre de touristes étrangers visitant la ville de Bandung augmentera. Le maire adjoint de Bandung, Yana Mulyana, a déclaré que l'ouverture de cette liaison avait eu un impact positif, non seulement sur le besoin en matière de transport, mais aussi capable d'améliorer l'économie et sociale dans la ville de Bandung.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel Pesona Indonesia. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel introduisant le musée de la Maison Ronde. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, La Voix de l'Indonésie. Tarakan est l'une des grandes villes en province Kalimantan Nord. Cette ville a une belle plage, des montagnes et des forêts protégées. Outre le tourisme naturel, la ville propose également des visites historiques. En voyageant historique dans la ville surnommée Bumi Paguntaka, vous pouvez visiter le musée de la Maison Ronde. Le musée est situé dans le nouveau quartier de la rue Danau Jempang, village Pramusian, district Tarakan Central, ville Tarakan, province Kalimantan Nord. Ce musée peut être atteint en environ 15 minutes de l'aéroport Juata Tarakan. Le musée de la Maison Ronde a été construit par les soldats australiens depuis 1945 comme un lieu de vie après s'être emparé du pouvoir des Japonais. C'est ce qu'on appelle une maison ronde car le bâtiment est comme un tambour qui est endormi puis coupé à plat au milieu. La maison de 6 x 12 mètres fut alors exploitée en 1945 par les troupes alliées comme centre d'activité pour améliorer l'environnement à Tarakan, qui était gravement endommagé par la Seconde Guerre mondiale lorsque les troupes alliées paralysèrent les troupes japonaises. Tarakan est devenue une zone historique parce que c'est le lieu où les soldats japonais ont débarqué pour la première fois en 1947. La richesse des ressources naturelles de Tarakan, à savoir le pétrole, est devenue l'un des aimants permettant aux forces étrangères de contrôler l'île. Le musée de la Maison Ronde conserve beaucoup d'histoires de la Seconde Guerre mondiale. La collection d'objets historiques est sous forme de samouraïs, hélices d'avions de chasse, chaussures des envahisseurs, casques de forces alliées, épées de bourreaux japonais et photographies de la situation de la Seconde Guerre à Tarakan. On peut voir d'autres collections, à savoir un certain nombre d'engins de guerre sous forme d'armes et de pistolets laissés par le VOC. L'origine de cet objet était originaire du district Berau. Les armes à feu à canon long et ce pistolet sont étiquetés VOC. La position de Tarakan à cette époque était une zone commerciale dans la région nord de Kalimantan. Ce pistolet VOC était une arme des marchands de VOC qui avait fait de Tarakan une route commerciale de Berau ainsi que Tanjung Selor ou d'autres terres de Kalimantan. Les objets historiques de musée de la Maison Ronde sont traités de manière très soignée dans la vitrine, de sorte que nous pouvons toujours voir ces objets dans une forme irréprochable. Dans ce musée, vous pouvez également voir les reliques du sultanat Bulungan, telles que son lit, sa photo, un tas de vêtements de grande taille utilisés par le sultan, ainsi que des produits anti-guerre tels que des wagons couverts de la vieille monnaie des téléphones à jusqu'à 400 à 600 ans. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien. Un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement et le renforcement du langage du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Saya Kecewa. Je répète, Saya Kecewa. En français, je suis déçu. Je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Saya kecewa » ou en français « Je suis déçu ». Chez Joko, Enda a l'air contrarié et triste. Tony veut savoir ce qui s'est passé.
Kamu kenapa, Enda?
Aku kecewa.
Kenapa?
Temanku membatalkan untuk berlibur bersama ke Bunaken.
Oh, sayang sekali.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir Saya kecewa, en français, je suis déçu. Kecewa, kecewa, en français, être déçu. Sedih, sedih, en français, être triste. Kesal, kesal, en français, être contrarié. Bahagia, bahagia, en français, être heureux. Senang, senang, en français, être content. Kenapa, kenapa, en français, pourquoi. Aku kecewa, en français, je suis déçu. Temanku membatalkan untuk berlibur bersama ke Bunaken. Temanku membatalkan untuk berlibur bersama ke Bunaken. en français, mon ami a annulé pour passer des vacances ensemble à Bunaken. Sayang sekali, en français, tant pis. Vous entendez Enda exprimer ses sentiments qu'elle est déçue parce que son ami a annulé de passer des vacances ensemble. Enda a dit « Aku kecewa ».« Aku kecewa ». En français, « Je suis déçu ». Voici des exemples d'autres expressions qui expriment des sentiments de cœur. « Aku senang ». »« Aku senang ». En français, « Je suis content ». Aku kesal. Aku kesal. En français, je suis énervé. Dia sedih. Dia sedih. En français, elle est triste. Vous pouvez utiliser le mot sangat, sangat, ou en français, très, atau sekali, atau sekali. En français, très pour montrer que vous êtes très heureux ou très déçu. Comme par exemple, aku sangat kecewa. Aku sangat kecewa. En français, je suis très déçu. Aku kecewa sekali. Aku kecewa sekali. En français, je suis très déçu. Le mot sangat, je répète, le mot sangat, ou en français, le mot très est placé avant l'adjectif, tandis que le mot sekali, en français, très est placé après l'adjectif. Un autre exemple, aku sangat bahagia. Aku sangat bahagia. En français, je suis très heureux. Aku bahagia sekali. Aku bahagia sekali. En français, je suis très heureux. Avant de terminer apprendre l'indonésien pour aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons encore une fois une conversation.
Kamu kenapa, Enda?
Aku kecewa.
Kenapa?
Temanku membatalkan untuk berlibur bersama ke Bunaken.
Oh, sayang sekali.
Jeremy, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien pour ce soir. Merci à tous et à demain.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz. Vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour cette édition, nous vous présentons les chansons traditionnelles de Kalimantan du Sud. On écoutera la première chanson intitulée Ampar Ampar Pisang. Bonne écoute.
Masak sabi gini hurung bari-bari, menggalepak menggalepop, patah kayu
Secrétaire chaque région Indonésie a ses propres chansons régionales. Parmi ces chansons régionales, il y a la chanson qui est déjà populaire non seulement dans la région originale mais aussi en Indonésie. L'une des chansons intitulée Ampar Ampar Pisang de la région du sud de Kalimantan. Cette chanson qui utilise la langue de Banjar était composée par Hamidan Aceh. Cette chanson est habituellement chantée par les enfants dans le zoo tous les jours. Ampar-ampar pisang peut être défini comme des banan à tartiner, les disposer avant le séchage. Dans le temps ancien, la banane est l'un des principaux aliments dans la région du royaume de Banjar. Les bananes sont transformées en divers aliments, mais avant d'être transformées, la banane soit séchée d'abord. Bon, c'est retard, voici la chanson traditionnelle suivante, intitulée « Saputangan Bapucu Ampat » de Lucy Kusendang. Bonne écoute.
Dimakan api. Saput tangan babunju
Sekretok setelah sang sok ang titulay sa putangan buah buncu ampat siyang tepak lusi kus endang. Sesangsong elun di sangsong populer pabenang di Kalimantan Dusut. Sesangsong etase fasil akhetnir abek ang ritmo ang susiang. Malge dipakol kinusong patrolong, sesangsong aangsang asiprofong epleng di mesa zumoro. Ang Indonesiang, sa putangan babuncu ampat wedir lemusyap akat kepuang. Dang lerasyong sosial, lerasyong umen song tujuk orne de konflik. Il n'est pas que le conflit provoque de la douleur. C'est pourquoi nous devons faire attention à garder les mots afin de ne pas blesser les autres. La sanction a un message aussi que les gens se pardonnent mutuellement. La sanction saputangan bapuncu ampat a la forme de paroles de vieux poèmes sous la forme de pantoun. Comme la plupart des vieux poèmes, les rimes sont souvent faites pour transmettre certains messages. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, écoutons maintenant les deux dernières chansons intitulées Pucuk Pisang de Rama Sugiatma et Anak Pipit de Fanny Beauty. Bonne écoute et à bientôt.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Terima kasih.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie à Jakarta. C'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.